Oui, donc voilà, je voudrais m'interroger en fait dans cette effectivement discipline savante. Peut-être que les mots sont pas très adaptés, mais on pourrait. C'est une façon de cadrer un peu les choses. Et puis ça faisait aussi référence aux disciplines qui figurent dans les programmes de CAPES. Et moi, je voudrais m'interroger donc sur le cas des mathématiques, sur la signification de l'histoire des mathématiques. En me posant la question, c'est, on l'a déjà évoqué un petit peu hier dans la discussion, c'est quoi l'histoire des mathématiques? De quelles mathématiques parle-t-on? C'est quoi les mathématiques comme objet d'histoire? Et ce qui renvoie aussi à une autre question, c'est quoi un mathématicien? Dans le milieu de la recherche, des historiens des mathématiques, c'est une question qui n'est certainement pas tranchée. Elle a certainement évolué depuis une dizaine d'années, comme l'a signalé Alain Bernard hier, mais c'est une question pas tranchée, et qui est encore moins tranchée si on se place du point de vue de l'histoire des mathématiques ou du point de vue de l'histoire de l'enseignement. Sachant que la plupart des historiens de l'enseignement des mathématiques, la plupart des historiens de l'enseignement des mathématiques sont en réalité des historiens des mathématiques. D'une façon générale, mais là je vais peut-être être un petit peu caricatural, c'est probablement une tendance qui a quelque chose qui a tendance aussi à évoluer. Les historiens des mathématiques abordent la question de l'enseignement comme très souvent comme un élément de contexte ou comme un élément de documentation, mais tiennent assez rarement compte du fait que l'activité enseignante est un élément à part entière de l'activité mathématique. Je cite l'article de Bruno Bellost qu'on a évoqué hier, hein, « La mise en commun du savoir mathématique, c'est-à-dire sa socialisation au sein des communautés de spécialistes et de communautés d'utilisateurs, qu'elles soient savantes ou de métiers, voire même dans l'ensemble du corps social, constitue un aspect essentiel de l'activité mathématique, partie intégrante de l'activité d'invention. » Et c'est aussi sur cet aspect-là, le rapport entre l'activité d'invention, qui est une des caractéristiques de l'activité mathématique, des chercheurs en tout cas, si on peut dire, et l'activité enseignante, je voudrais parler un petit peu de ces rapports-là. Donc effectivement, au moins très généralement pour le 19e siècle et le 20e siècle, le milieu des mathématiciens est très largement un monde de professeurs. Et les textes mathématiques qu'ils produisent sont aussi très souvent des textes d'enseignement, par les traités, etc. Et autre aspect aussi qui relie les mathématiciens à l'enseignement, eh bien, c'est que les institutions d'enseignement ont joué aussi un rôle très important dans la structuration du milieu mathématique, dans l'organisation du champ disciplinaire, entendu comme l'espace des positions dans lequel se déploient les carrières, les centres d'intérêt des mathématiciens. Et d'une certaine façon, on peut dire que l'enseignement est indissociable de la recherche pour qui veut faire carrière dans l'enseignement, pour qui veut faire carrière dans les mathématiques, pardon. On pourrait ajouter que de nombreux mathématiciens éminents se sont intéressés à des questions d'enseignement. On a vu Émile Borel hier, on pourrait parler d'André Lichnerowitz à propos de la réforme des mathématiques modernes, on pourrait parler d'autres personnes même aujourd'hui, Jean-Pierre Kahn par exemple, pour parler de personnes plus récentes. Se sont aussi parfois investis dans des commissions de réforme, par exemple, ou ont été inspecteurs généraux, etc. Certains historiens des mathématiques s'intéressent à l'histoire de l'enseignement en soi. On peut même dire d'ailleurs que l'histoire de l'enseignement des mathématiques est essentiellement produite donc par ces historiens des mathématiques qui militent en réalité, s'ils s'intéressent à l'histoire de l'enseignement des mathématiques, c'est pour développer une histoire sociale des mathématiques. Donc il y a je pense à Bruno Bellost, Hélène Gispert, Caroline Erhardt, par exemple. Qu'est-ce que cherchent ces collègues? C'est restituer la production mathématique dans ses cadres sociaux, dans ses cadres culturels, institutionnels, mais aussi étudier le milieu mathématique qui produit des mathématiques, hein, ou le milieu des individus, parce que se pose aussi la question de savoir ce qu'on appelle le milieu mathématique. Est-ce que c'est simplement le milieu des mathématiciens qui font de la recherche, ou est-ce que ce n'est pas quelque chose de plus large? Ce sont aussi des collègues qui s'intéressent non seulement donc à la production de mathématiques, mais aussi à la mise en circulation des savoirs mathématiques produits, ce qui renvoie là encore à la question de l'enseignement, et qui sont également attentifs à la diversité et à la profusion des activités mathématiques à une époque donnée. On pourra noter néanmoins que c'est, et que ça rejoint un peu la question des sources et de la centration, par exemple, sur la réforme de 1902. C'est que ces historiens de l'enseignement mathématique privilégient généralement l'enseignement secondaire et supérieur et s'intéressent peu, en revanche, à l'enseignement primaire ou aux formes de scolarisation prolongées qui ont pu exister au XIXe siècle ou même au XXe siècle. Je pense aux écoles primaires supérieures, même aux cours pour ouvriers, à l'enseignement mathématique qu'on pouvait dispenser dans des écoles de dessin ou pour de la période plus récente, à l'enseignement professionnel. Soit qu'ils s'intéressent à la formation des élites, ce qui est par exemple le cas de Bruno Belloste, soit qu'ils se posent des questions d'histoire des mathématiques en interrogeant l'histoire de l'enseignement des mathématiques. On pourrait aussi mentionner parmi les historiens des mathématiques qui s'intéressent à l'enseignement, les travaux d'Alain Bernard, de Christine Proust et le séminaire dont on a parlé hier, hein, qui travaillent sur le développement des enseignements scientifiques, le développement des sciences dans des contextes d'enseignement. Mais je reviens à la question de quelles mathématiques parle-t-on finalement quand on fait référence à l'histoire des mathématiques ? Où se situe la frontière entre savoir savant ou savoir de référence savoir enseigné ou savoir scolaire ou mathématiques scolaires ? Et au corollaire, donc, qu'est-ce qu'un mathématicien ? Qu'est-ce que le milieu mathématique ? Alors, je crois que pour réfléchir à cette question, d'abord, il faut avoir à l'esprit que le domaine couvert par les mathématiques savantes, ou ce qui est considéré à un moment par l'historien d'aujourd'hui, ou même à un moment donné comme des savoirs de référence, est variable selon les époques et selon les institutions. À l'Académie des sciences, par exemple, au XIXe siècle, mais aussi au début du XXe siècle, les sciences mathématiques, ça englobe la géométrie, la mécanique, l'astronomie, mais aussi la géographie, la navigation et la physique générale. Dans une société savante qui est constituée en 1872, on peut rajouter à cette énumération, avec quelques nuances néanmoins, on peut aussi rajouter le génie civil et le génie militaire, qui sont en gros, si on peut dire, la science des ingénieurs. Donc, dans la définition du mot mathématique déjà, et dans la définition des mathématiques savantes, il y a déjà un empan qui est variable et avec des lieux différents d'une institution à une autre. Par ailleurs, les mathématiques de référence ne sont pas nécessairement les mathématiques des chercheurs. Il y a des mathématiques de référence qui recouvrent des domaines qui relèvent moins de la recherche que de pratiques sociales ou de savoirs d'usage. Je pense notamment à tout ce qui a trait à la question de l'arpentage, aux géométries pratiques qui sont inscrites dans une tradition d'usage, beaucoup plus, même si ça peut donner lieu évidemment à des travaux de recherche, mais qui sont aussi dans une tradition de transmission locale sur le terrain. Par exemple, les arpenteurs du XVIIIe siècle n'allaient pas nécessairement dans des écoles. Il y avait d'autres modalités de transmission. Par ailleurs, le milieu mathématique lui-même et la production mathématique de celui-ci dépend de l'institution qu'on étudie. Si je prends juste un tout petit exemple, qui est l'Association française pour l'avancement des sciences, qui est une société savante donc créée en 1872... y évoluent dans cette institution des mathématiciens que l'on peut qualifier d'amateurs, qui font des mathématiques en marge des mathématiques pratiquées par ce qu'on pourrait appeler les professionnels des mathématiques. En l'occurrence, la géométrie du triangle, qui a fait d'ailleurs l'objet d'une thèse assez récemment, qui défend l'idée qu'avec cette nouvelle géométrie du triangle, on passe d'une mathématique d'amateur à une mathématique d'enseignant, sans passer d'une certaine façon par le circuit, sans passer par le circuit savant. Autre point, la frontière entre mathématiques savantes et mathématiques scolaires est une frontière floue, dans la mesure où des résultats de recherche ou des approches renouvelées de tel ou tel domaine mathématique peuvent être exposés par des mathématiciens dans des ouvrages d'enseignement. Je pense par exemple au mathématicien Bézout, qui était examinateur à l'école des gardes de la marine et qui, en fait, a publié sous forme, on pourrait presque dire déguisée, des résultats de recherche dans son manuel d'arithmétique, qui est pourtant, a priori, un manuel d'arithmétique relativement élémentaire. Ceci ne veut pas dire, à l'inverse, que tous les traités commis par des savants, d'ailleurs, sont des traités savants. On peut noter, et ça, je dirais que c'est peut-être une petite critique à l'intention des didacticiens qui veulent voir de la transposition didactique partout, que certains manuels commis par des savants ne sont en fait pas des traités savants. L'arithmétique de Bézout, l'arithmétique de Lacroix, ce sont des arithmétiques comme on peut en trouver d'autres. Elles ont des factures particulières au début du XIXe siècle, mais ce sont quand même des arithmétiques qui donnent les éléments d'arithmétique qu'on pourrait aussi trouver dans les arithmétiques des frères des écoles chrétiennes, par exemple. Autre point qui est complémentaire, l'expertise enseignante peut être reconnue comme un constituant de la légitimité savante. C'est-à-dire que le savant ne tire pas uniquement sa légitimité dans le monde savant de ses travaux de recherche, mais peut le tirer aussi de son expertise en matière d'enseignement. Et à cet égard, un article de Caroline Erhardt qui est paru dans la revue Histoire de l'éducation il y a un ou deux numéros, qui développe cette idée à propos du mathématicien Lacroix. Deuxième élément de flou concernant cette frontière entre discipline savante et discipline scolaire, c'est la question de ce qui peut caractériser l'activité mathématique. On pourrait admettre que ce qui caractérise les mathématiques savantes, finalement, c'est la recherche et la résolution de problèmes, et plus particulièrement de problèmes ouverts, c'est-à-dire de problèmes dont on ne connaît pas la solution a priori. Or, il s'avère qu'il y a, il y a un certain nombre de contextes scolaires ou de contextes d'enseignement qui donnent la possibilité à des élèves de s'adonner à ce type d'activité. Dans les premières années de l'école polytechnique, par exemple, les problèmes de géométrie descriptive posés par Gaspard Monge à ses élèves sont devenus, pour certains d'entre eux, pour certains de ses élèves, des objets de recherche. Il y a eu un espèce d'effet retour de l'activité de recherche proposée dans un contexte d'enseignement vers le monde savant. Et d'ailleurs, la remarque qu'Elisabeth a faite tout à l'heure à propos du traité de l'article de Jung sur l'effet retour, ça serait intéressant de s'interroger sur ces effets retours, je trouve, entre eux, et d'une certaine façon, en parlant du manuel dont tu as parlé, il y a aussi une espèce d'effet retour. Ça me paraît intéressant de réfléchir à cette question-là. Par ailleurs, certaines revues mathématiques au XIXe siècle, comme les Nouvelles Annales de Mathématiques, qui visent un public intermédiaire, il est vrai, enseignants en classe préparatoire, publient des problèmes ouverts qui sont l'objet de réponses de la part d'élèves des classes préparatoires. Et donc là, il y a aussi une activité de recherche de type savante, si on veut le voir comme ça, du côté des élèves. Alors évidemment, cette netteté ou ce flou entre mathématiques savantes et scolaires varie très certainement en fonction des finalités assignées à l'enseignement mathématique. Qu'attend-on des élèves ? Qu'ils poursuivent leurs études mathématiques plus avant, ou qu'ils se pénètrent de l'esprit des mathématiques et de ses méthodes, ce qui serait plutôt une finalité culturelle, ou alors qu'ils soient en état d'utiliser des résultats mathématiques dans leur métier ou dans la vie courante, ce qui serait plutôt une finalité utilitaire. Donc je pense que selon les finalités, la question des rapports entre disciplines savantes et disciplines scolaires connaît certainement des variations qui seraient aussi intéressantes de mieux spécifier. Enfin, et je vais terminer là-dessus, c'est pas parce que il y aurait ce flou entre disciplines savantes et disciplines scolaires que l'enseignement dispensé serait une sorte de décalque amoindri des savoirs savants. D'abord parce que le monde scolaire possède une certaine autonomie par rapport au monde savant, un espace de liberté, je pense que ça a été plusieurs fois évoqué ici, en particulier parce que les auteurs de manuels jouissent eux-mêmes d'une liberté par rapport au programme d'une part, mais aussi par rapport au savoir de référence d'autre part. On pourrait citer un exemple. En 1874, un mathématicien, professeur à la faculté des sciences de Dijon, Charles Méret, publie des nouveaux éléments de géométrie. Donc rien que le terme « nouveaux éléments de géométrie », ce n'est pas la première fois dans l'histoire des mathématiques qu'on voit ça d'ailleurs. Il y a d'autres époques où on pourrait repérer aussi des nouveaux éléments de géométrie, qui seront d'ailleurs réédités en 1903 à l'occasion de la réforme. Entreprend de refonder l'enseignement de la géométrie sur d'autres en se démarquant de l'exposé traditionnel à la Euclide. Et il est très intéressant de noter que c'est principalement dans les écoles normales d'instituteurs et dans les écoles primaires supérieures, et non dans l'enseignement secondaire, que cet ouvrage a été utilisé, qui n'a pas été beaucoup utilisé, mais c'est là qu'il a fait ses premières armes, si je peux dire. Bien, on pourrait aussi donner d'autres exemples sur le caractère un peu créatif de l'enseignement. Bon, André Chervel l'a montré, bien sûr, à propos de l'enseignement de la grammaire, mais on pourrait le montrer à propos d'autres disciplines. Je pense, par exemple, sur toutes les interactions qui se développent entre et qui n'ont rien à voir, cette fois-ci, avec une quelconque influence des savoirs savants, sur toutes les coopérations disciplinaires qui se développent au tournant du 19e et du 20e siècle, entre l'enseignement de la géométrie, l'enseignement du dessin et l'enseignement du travail manuel. Là, il y a une création scolaire tout à fait évidente. Enfin, je crois qu'il faut, et je terminerai radicalement là-dessus, c'est souligner qu'entre le monde savant et le monde scolaire, il y a aussi un autre monde qui intervient, un monde beaucoup plus global. C'est et donc que les relations ne sont pas simplement des relations à deux, mais c'est qu'il y a l'inscription du monde savant et du monde scolaire dans le réseau plus global de la société, avec ses cadres sociaux, culturels, etc., qui changent selon les époques. Évidemment, on a parlé de la réforme de 1902 hier. Ce qui se passe à ce moment-là, le rapport qu'on peut voir effectivement entre les conceptions épistémologiques d'un Borel et les conceptions pédagogiques qui en découlent au moment de la réforme de 1902 sont très étroitement liés avec les finalités que l'on veut assigner à un moment donné à cet enseignement, avec les nécessités du temps et notamment les nécessités, enfin véritables ou supposées, peu importe, mais les nécessités économiques que l'on attend de cette réforme, l'ouverture sur le réel, l'ouverture sur le concret, tout un tas de choses comme ça. Tout ça pour dire, pour conclure, que les mathématiques de référence, comme les mathématiques scolaires, même si elles ont des relations les unes entre elles, ne sont pas non plus des savoirs en l'air, mais s'inscrivent pleinement dans le social, et c'est aussi cette interrelation avec le social qu'il faut faire rentrer dans l'analyse.